Connaissez ce générique, c'est que vous avez déjà vu l'émission mythique Striptease diffusée pendant de nombreuses années sur la RTBF et France 3. Après leur premier long métrage Ni juge ni soumise sorti en 2017, les réalisateurs Jean Libon et Yves Inan reviennent pour nous proposer Poulet frites, leur second long métrage présenté dans la section découvertes européennes du Arras Film Festival. L'entretien avec les truculents réalisateurs pour parler de leur travail sur cette enquête meurtrière. On va parler non pas couscous merguez mais poulet frites, ouais. Avec votre dernier film. Évidemment, ceux qui sont, j'imagine qu'il y a plein de gens qui connaissent l'émission Striptease qui existait déjà avant. Là, vous êtes revenu au cinéma, donc juste avant, avec Ni juge ni soumise. Et en même temps, là, vous revenez avec Poulet frites, un film qui retourne dans le passé, où on est en immersion totale, dans un, pratiquement dans du début jusqu'à la fin, dans un commissariat de police. Alors, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est comment on fait pour avoir justement des autorisations pour être au cœur d'une affaire de meurtre.
Alors, ça c'est ma partie. Donc, Jean et Marco, donc Jean Libon, c'est le producteur de Striptease. Là, on avait envie, moi je suis réalisateur, avec les nombreux Gugus et Zozo de l'équipe de Striptease. Et moi, j'avais envie de faire avec Jean un polar. Ce que j'adore avec ce jeune monsieur ici à ma droite, c'est qu'il m'a toujours dit qu'il n'y avait rien d'impossible. Et donc il y a ce qu'on appelle un secret de l'instruction. Donc c'est secret, par essence. C'est secret. C'est-à-dire que quand, et ça Jean a ses raisons, c'est que quand on nous interdit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière, donc il faut y aller. Donc on a discuté avec la justice pendant 2 ans, et avec toujours le truc qui revenait en face, c'était « oui, mais il y a le secret de l'instruction ». À un moment donné, je suis un peu patient et surtout bien soutenu en termes de production. Et donc Jean m'a dit « mais tu prends tout ton temps, mais tu vas y arriver ». Et donc on a attendu, on a rediscuté avec eux tous les mois. Et à un moment donné, l'avocat général a dit « ben voilà, le secret de l'instruction, d'accord, on va s'en passer. Et faites votre film et vous pouvez faire votre film ». Voilà. Et donc ça, c'est grâce au temps que laisse Striptease, le temps qu'on laisse au réalisateur pour travailler. Et donc on a eu ces autorisations-là qui ont pris du temps. Et puis on a fait un casting. Moi j'étais voir tous les flics et tous les juges, et Jean a regardé la juge et le flic que je lui proposais. On est tombé d'accord, on s'est mis pendant 1 an à attendre le crime parfait, et le crime parfait est arrivé. Voilà.
On retrouve Anne Gruvet, mais cette fois-ci dans le passé, toujours avec son humour un peu décapant et son franc-parler en même temps, mais son humour partageur, j'ai envie de dire, et non pas critique. Déjà dans Ni juge ni soumise, elle était quand même au centre, et c'était quand même absolument fascinant, cette dame. Donc du coup, j'imagine que maintenant, ça fait 3 films que je pense que vous faites ensemble. C'est le deuxième ?
C'est le premier des 3, celui-ci. C'est le premier des 3 qui sort 20 ans plus tard.
Ouais. Et donc du coup, il a été tourné en...
Fin 2002, début 2003.
Je trouve ça fascinant parce que je regardais aussi les émissions Striptease. Notamment, je me souviens d'une émission autour de Chirac et sa femme. Si m'avait marqué.
Le chauffeur de Chirac. Alors, je vais vous raconter une histoire. Donc, on rediffuse ça 1 an plus tard. On reçoit un ukase de la femme du chauffeur en disant je veux pas que ça repasse. Et en même temps, le chauffeur, et je me souviens, Marco Gamèche, donc mon alter ego, au bureau avec 2 téléphones. Un, la femme du chauffeur disait je veux pas que ça passe. Et le chauffeur de l'autre côté, au téléphone, disait je veux que ça passe. C'était une vision assez formidable. Donc les 2 protagonistes, 1 an plus tard, un voulait que ça repasse et l'autre pas du tout. Donc il faut gérer comme ça, il faut gérer. Assez comique, je trouve.
Une chose qui est fascinante aussi, et surtout là sur grand écran en plus, en Poulet frites, un long format, déjà dans Ni juge ni soumise, c'était aussi mis en évidence. Moi, un truc qui me fascine dans votre boulot, c'est comment vous arrivez à trouver cette distance entre la caméra, vous derrière, et les gens qui sont dans des bureaux, dans un espace confiné. Comment ils arrivent à oublier, surtout ceux qui sont...
Parce qu'ils font leur travail. Parce qu'ils font leur travail. Et c'est leur boulot. Et donc on est là, on fait partie des meubles. Et leur boulot, ce qu'ils font est plus important. Quand la juge envoie quelqu'un en prison, elle fait son boulot, elle réfléchit vraiment, est-ce que je l'envoie en prison ou pas. Et le type qui se défend, il dit, est-ce que je fais bien d'accepter? Est-ce que je me défends comment pour ne pas aller en prison, quoi. Alors en fait, il y a notre présence là-bas est anecdotique. Hein. Eux, ce qu'ils vivent est plus important. Le type qui est devant un juge dit, moi j'ai pas envie, il se dit dans la tête, moi je vais raconter n'importe quoi pour parler en prison. Il va pas se dire, je raconte n'importe quoi pour la télé, quoi. Et donc, ça c'est simple. Ça, c'est... Alors c'est vrai qu'au départ, les situations physiques sont repérées, les axes de caméra sont repérés, et puis voilà, et puis c'est parti. Et c'est, l'histoire emporte la caméra, en fait, emporte notre présent. Notre présent est anecdotique, en fait. Et en plus, quelque part, ils ont intérêt à nous accepter, parce qu'ils seront bien traités, quoi. Ils vont pas recevoir des coups de beauté sur la gueule, quoi. On est quand même les témoins de quelque chose, de leur existence. Donc ils ont quand même tout intérêt à ce qu'on soit là, quand même.
Moi, je crois pas que... En fait, c'est à mon avis tout le contraire. Je pense que la caméra, elle n'est pas distante, elle est très très proche. Elle est, quand je dis qu'elle n'est pas distante, c'est-à-dire qu'on connaît les gens, on a un rapport aux gens qui est établi depuis très très longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a on a l'impression qu'on n'est pas là. Et moi, en tant que réalisateur, je suis souvent à préparer la suite, parce que moi, je suis plus un régisseur à préparer la suite des tournages. Mais cette caméra, elle n'est pas ni trop proche, ni trop lointaine. Elle n'est pas étrangère aux personnes qui la connaissent. Et donc, c'est parce que un bon caméraman de striptease, un bon preneur de son pour striptease, c'est quelqu'un qui s'entend avec les gens. Et donc, voilà, on n'est pas des étrangers, mais on n'intervient pas non plus. Donc, c'est une bonne distance à trouver.
Une chose qui m'a marqué également, c'est que bah, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est témoins de ce qui se passe. Si on prend le cas de ce monsieur qui est condamné, j'ai oublié son prénom, Alain Mertens, il s'exprime avec ses mots à lui, des fois même il est drôle dans sa façon de dire les choses. Comment vous faites pour ne pas être envahi par une sorte d'émotion? Est-ce qu'il y a, vous fermez le cerveau à un moment donné, vous,
C'est comme ça. Moi, je fais aucune théorie là-dessus, quoi. C'est la réalité brute. Je suis là pour capter la réalité brute, qu'elle soit triste, moche, joyeuse ou pas, qu'on rigole ou qu'on pleure, et puis c'est tout, quoi. Moi, je philosophe pas là-dessus. La réalité, elle est là, elle existe, elle est là. Je suis là avec ma caméra pour la retranscrire, quoi. Alors, je peux ressentir des choses, soit de m'éloigner, soit de me rapprocher, suivant mon sentiment à moi, quoi. Mais d'un autre côté, la réalité dépasse tout. C'est la force de ce qu'on fait par rapport à la fiction écrite. C'est que cette réalité que l'on vit à ce moment-là est plus forte que n'importe quoi. Parce qu'elle est réelle. C'est pas un comédien qui joue, ça. Parce qu'on pourrait refaire pour les frites avec des comédiens. On reprend tout le texte, on le fait jouer par des comédiens qui vont répéter pendant 3 mois leur texte autour d'une table ici pour être bien au moment même. Ce sera autre chose, ce sera un autre film, quoi. Et à mon avis, moins riche. Avec le même dialogue, il sera forcément moins riche, parce qu'il y a une espèce d'émotion viscérale comme ça, qui sort brute comme ça, qui à mon avis dépasse tout. Et à mon avis, c'est la richesse de ce qu'on fait, nous, par rapport à une fiction, quoi. Alors que ce film est quand même une fiction quelque part. Tout est du documentaire, mais c'est quand même un film de fiction quelque part. C'est qu'on raconte une histoire d'un meurtre avec un coupable qui est peut-être pas coupable, mais peut-être bien coupable, mais pas coupable ou pas coupable. Et avec des flics qui se démerdent. Il faut bien dire qu'à l'époque, quand on a tourné ça en 2002, maintenant on voit des flics partout, sur toute l'échelle. À ce moment-là, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune émission qui allait aussi près chez les flics, quoi. Ça ne se voyait pas. Maintenant, depuis lors, on en voit sur toutes les chaînes tout le temps. 24 heures sur 24, on en voit. Mais à ce moment-là, on était pratiquement les premiers à être dans une enquête réelle policière avec le cadavre à nos pieds et tous les gens qui s'arrachent les cheveux pour trouver qui a vraiment tué cette pauvre dame, quoi. Et donc voilà, et je trouve... Ça, c'est plus riche que n'importe quelle fiction.
Quand on filme des choses comme celle-là, au début, il y a côté un peu bien-pensance, culpabilité. Moi, je me rappelle, en préparant ce film-là, je suis dans le bureau d'une autre juge, et il y a un grand monsieur, très charmant au demeurant, qui est accusé par sa société de détourner du matériel. Et il est sénégalais, il explique en pleurant que c'est incroyable, il est victime de racisme à son travail, que jamais, jamais, jamais. Et moi, je suis derrière le petit bureau parce que je repère les mains dans les poches et j'assiste vraiment à une mise à mort sociale d'un type qui n'a rien fait, quoi. Il pleure et tout ça. Et je suis très en colère intérieurement contre la juge qui parle quand même bizarrement à cette personne. Et alors là, à un moment donné, elle dit, ben voilà, je vous écoute, on vous accuse de ceci, vous auriez volé cette télévision-là, cette caisse-ci, ça. Il pleure, il explique que non, jamais, au grand jamais. Et elle lui dit, mais c'est pas grave, je vous mets en prison. Moi, je suis vraiment terrifié par ça et je vais vraiment lui en parler et m'énerver. Et au moment où le monsieur part, elle le rappelle et elle dit « Regardez ça ». Et en fait, c'était des photos où on voyait le type qui prenait les TV, les caisses, les trucs et les machins. Et donc, moi, je pense qu'il faut, faire attention parfois à nos sentiments, à se dire « Ah, je ne peux pas faire ». On a fait un film sur un néo-nazi, ça fait le tollé à notre chaîne. Je pense qu'il faut, c'est la vieille génération. Moi, je suis un peu plus jeune que Jean et peut-être dans une génération un peu plus molle, mais il faut montrer tout en fait. Il faut pas avoir de tabou et pas de sacré quoi. Il faut aller au fond des choses, et parfois se rapprocher des bourreaux plutôt que de se dire ah non, moi en tant que réalisateur je ne parle pas de ceci, je ne parle pas de cela. Je pense qu'il faut parler de tout en fait. Et parfois avec humour.
Bah justement, parler d'humour, parce qu'on évoquait avec Yves, juste avant le début de l'interview, quand on est en tant que spectateur, on est témoin évidemment aussi de ce qui se passe, mais en même temps, on trouve ça drôle, et en même temps, pas drôle. On est bouleversé par un double sentiment, en fait.
C'est ça qui est bien, non ? C'est ça qui est bien.
Mais oui. Et c'est ça qui est dérangeant, et en même temps, c'est... C'est fascinant.
Si on fait ça, je dis, exemple avec des comédiens, on n'a pas ce sentiment, là. On n'a pas ce sentiment, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. C'est deux comédiens qui disent un texte, quoi. C'est pas ça. Et ici, il y a autre chose. Et c'est autre chose que moi je trouve intéressant, quoi. Et qui moi m'intéresse, en fait.
À ce propos, on sent de toute façon, depuis le début de Striptease, et de toutes les émissions qu'on a vues aussi bien sur la RTBF ou sur France 3, et en même temps, avec les films que vous faites maintenant au cinéma, il n'y a pas de message. Ça, c'est clair. Pour nous, dans nos têtes, c'est clair. Par contre, il y a un constat de certaines choses, et on sent quand même, si on reprend le film Poulet frites, la condition de vie de ces Pakistanais qui sont logés dans des trucs mais complètement hallucinants, ça interpelle quand même quelque part. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces conditions ? On va essayer des associations ?» Je ne sais pas.
Vous savez, en 25 ans de Striptease, on a tout eu, hein. On a tout. Ben forcément, il y a des gens que ça choque, il y a des gens dans tous les sens d'ailleurs. Je vous dirais, le tout premier sujet, c'est une famille, donc en 85, Striptease n'existe pas, ils annoncent ça à RTBF, premier sujet, une famille nombreuse de 10 enfants. On présente simplement, ça dure 17 minutes, on présente les 10 enfants. Et le père et la mère, donc chômeur ou agon, on ne travaille jamais, on vit avec les allocations familiales. En même temps, la maison du bon Dieu, quoi. Tout le monde, tout le village vient boire sa bière ou truc. Jean Charmant, enfin, il ne travaille pas. Et un jour, le père, avec son fils aîné qui avait 12 ans à l'époque, est allé dans le champ à côté, piquer un mouton pour égorger, pour donner à bouffer à ses gosses. Il est piqué, condamné à 6 mois de prison avec sursis. Moi, je trouvais ça plutôt sympathique. Je trouvais ça bon. Donc, on diffuse ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais notre chef restait au moment des diffusions au bureau parce que les gens téléphonaient. Premier coup de fil, un type ivre de rage en disant « Mais c'est scandaleux, ce gros porc avec sa grosse dondon, là, vous montrez un truc vraiment injurieux, vous montrez quand même ce type qui est un voleur, qui est d'abord travaillé, c'est nous qui, avec notre argent qui le faisons vivre parce qu'il est au chômage, qui ne veut rien foutre, c'est scandaleux. Le patron dit, ah oui, monsieur, vous avez peut-être raison. Il raccroche, deuxième coup de fil, une dame disant, c'est formidable votre émission, ce pauvre type avec qui doit à tel point aller voler un mouton pour donner à bouffer à ses gosses, c'est scandaleux qu'on n'ait pas ces gens. Donc les deux premiers coups de fil, c'était noir et puis blanc. Et 30 ans plus tard, avec Striptease, c'est toujours la même chose. C'est qu'il y a des gens qui détestent Striptease, il y a des gens qui adorent Striptease. Et je crois qu'on met justement le doigt où ça fait mal, d'un côté comme de l'autre, quoi. Et je trouve, c'est ce qui fait marcher, entre guillemets, Striptease, c'est un peu ça. C'est que, comme il n'y a pas de filtre, je dirais, même s'il y en a, comme il n'y a pas de filtre, on espère de voir des réalités brutes comme ça, qui interpellent, parce qu'on ne voit plus du tout ça. Mais c'est pas tangible, quoi. Et ici, on voyait la famine dans une famille, une bonne famille, comme tout le monde, au fin fond de la Belgique, quoi. Et puis voilà, des gens, bon, ils sont ce qu'ils sont, en même temps sympathiques, mais en même temps, c'est vrai que le monsieur, c'était pas un foutre de guerre du travail, et que madame avait quand même 10 gosses à s'occuper, et s'occuper de 10 gosses qui étaient étalés sur 12-13 ans, je crois. En plus, elle avait fait deux fausses couches, en fait, pratiquement d'année en année, pendant 12 ans ou 13 ans, elle a eu des gosses, quoi. Ça pèse quand même, hein. Et puis voilà quoi, c'est pas. Et je crois qu'on met le doigt. Où... Alors c'est vrai qu'il y a toujours un arrière-fond sociétal derrière, je dirais. Toujours. Que ce soit sociologique ou politique, etc. Il y a toujours un truc derrière. S'il n'y a pas ça, on ne fait pas de sujet. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut toujours qu'il y ait un regard sur la société derrière ou sur un point de vue derrière. C'est important, ça. C'est fondamental. S'il n'y a pas, on ne fait pas, en fait. S'il n'y a pas, on ne fait pas. Donc, voilà.
Moi, ce qui m'a beaucoup touché également, et en même temps, j'ai été un peu perturbé, c'est cette... plus on avance dans le film, plus on s'aperçoit que finalement, il y a une espèce de... d'empathie entre le commissaire Lemoine et c'est étonnant ça. Enfin, de l'empathie au départ peut-être et de la sympathie après parce qu'on sent. Voilà.
Je pense pas que c'est de l'empathie, je pense que c'est de la sympathie moi. Oui, il y a ça, oui. Il y a une culpabilité aussi chez le policier. Je trouve qu'il y a. Voilà, il y a du rétropédalage, il y a comment faire sortir un type qu'on a fait rentrer. Enfin, on va pas spoiler le film, mais je trouve que Jean-Michel, c'est un peu toi, c'est un peu moi, c'est un peu Jean, c'est un peu... Et Anne, c'est à un moment donné, même si ça t'énerve, c'est un peu toi, c'est un peu moi. C'est que, voilà, c'est ça qu'on essaye de faire.
Jean-Michel, de formation, c'est un assistant social. C'est pas, il n'est pas flic de formation, il est venu flic après avoir fait une dizaine d'années d'assistanat comme ça.
Donc le rapport humain...
C'est intéressant, il sait ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est un bon flic en plus. Hein.
D'ailleurs, il est devenu...
Oui, commissaire de l'IHF, hein, de la criminelle. Ouais.
Autre chose également, alors, ce qui aussi, et là, c'est drôle, ce sont les différentes méthodes entre les différentes polices de différents pays. Alors, le truc de la carte verte aux États-Unis où Anne Gruvez, la juge, qui dit « Mais non, c'est Judas, quoi. Enfin, ça va pas, quoi. » Il y a un truc qui est bizarre. Entre la Grande-Bretagne qui n'a pas la registration des GSM ou je ne sais plus quoi exactement, et la Belgique qui essaye de démener avec Interpol. Mais c'est un truc de malade, quoi. Et là,
on vous raconte pas tout, hein, parce que dans la vraie histoire, d'abord, il est logé en Italie, il le rate à cause d'Interpol, parce que je ne sais pas très bien ce qui se passe. Il y a un truc... Pas du système, je sais pas très bien quoi, ça marche pas. Il rate en France, au Havre. Il retourne en Angleterre, au Havre. Au Havre, les Français le ratent pour autre chose. Il rate encore en Hollande, je sais plus très bien pourquoi. Mais partout, en fait, il y a un coup d'avance sur les flics, en fait. J'ai quand même vu l'année passée que le grand patron d'Interpol, qui était un Chinois, est rentré en Chinois et n'en est plus sorti. Vous avez vu ça? On se rend compte qu'Interpol, dans sa structure, c'est bien, mais...
C'est comme l'Europe, il y a quand même tous les ans, il y a quand même un pays qui rentre, qui sort, qui part, qui... Hein. Enfin, avec les Anglais sans les Anglais, les Polonais sans les Polonais, donc voilà, c'est un peu à l'image du monde. Hein.
Eh ben, je pense que j'ai fini un peu de faire le tour de ce film formidable. On le recommande à tout le monde. Et la question de la fin, est-ce qu'il y a un sujet que vous avez absolument envie de traiter, que ça fait un moment que vous êtes dessus?
On est encore sur des... Donc on a Striptease Cinéma, on est encore sur des longs, donc on ne peut pas parler, mais il y en a un... Je regarde Jean, même deux, sur Serein. Il y en a un qu'on a vraiment, vraiment envie.
Oui, mais enfin, oui, c'est pas...
Mais il y en a plein. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore fait.
Il y a deux, trois trucs, en fait. Si ça marche, c'est assez formidable. Mais il faut attendre quelques années, quoi. Hein. Il faut attendre quelques années. Il y a un sujet qu'on voudrait bien faire, mais si on parvient à le faire, on en a pour 4 ou 5 ans, quand même, avant d'y arriver, quoi.
On vous invitera.
Mais ça ne dépend pas de nous. En fait, il y a un espèce de jugement qui doit être fait.
Le film sortira quand finalement? La date est définie ou pas encore là?
Pas encore? Non, pas du tout, pas du tout. Ce sera l'année prochaine au printemps, peut-être même juin, peut-être fin avril, parce que l'année prochaine, vous savez que pour l'instant, il y a quand même des tas de films qui sortent toutes les semaines, qui ne marchent pas. Donc on aimerait que toute cette vague soit éliminée. On dit février-mars, après vous avez les élections. Après, on se retrouve juillet-août. On sait que ça ne va pas marcher. Et à la rentrée, il y a la Coupe du monde de foot. Et donc, on se dit peut-être, ça ne fait pas trop beau mai-juin, s'il pleut.
Du coup, la Belgique, elle a de bonnes chances, là, j'espère, hein, cette année.
Bah non, cette année. Bah non, ils arrêtent de jouer. Ils ne jouent qu'une mi-temps.